mia dare, dicembre vi ha scelto a primora vesperale.
Chers auditeurs, non pas bonsoir, puisque nous sommes en préenregistrement. Hilaire de Crémier, donc vous suppléez, vous remplacez
Maître Jacques
Trémalet-Dillère, qui n'est pas parmi nous. Et nous avons le plaisir de recevoir Gilles Varange, alors journaliste, essayiste. Donc cette émission sera diffusée le jeudi 21 mai à 19h30.
Et par conséquent, les auditeurs ne pourront pas envoyer leurs réflexions agréables ou désagréables.
Oui, je n'aurai pas le plaisir de les lire, c'est dommage. Voilà.
Très bien, ben, merci Marie-Vonne. Alors, je commence par une petite publicité parce que nous faisons des travaux remarquables, que ce soit à Politique Magazine, à la Nouvelle Revue Universelle, auquel contribue notre ami Gilles Varange. Et nous faisons, dans le cadre du Cercle Vauban, dont j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises à cette antenne, nous faisons des plaquettes, des petits livres sur des sujets extrêmement importants. Et là, le dernier qui vient de paraître du Cercle Vauban s'intitule « La défense, un impératif national ». Alors, inutile de vous dire que c'est vraiment un expert de très, très grande qualité. Je ne donnerai pas son nom, évidemment, général de son État, qui n'est maintenant plus en activité, mais qui a eu des très hauts postes, et qui est l'un des principaux rédacteurs, sinon le principal rédacteur de cette brochure, qui est, tous les experts le diront, qui l'ont lu, l'ont dit, qui est absolument remarquable. C'est un récapitulatif de la situation aussi bien dans le monde, du point de vue évidemment des forces en présence, mais c'est aussi un récapitulatif de la défense française, dont on prétend, puisque bientôt il y a un budget qui va être voté, on parle de 30 milliards supplémentaires, mais comme il est dit d'ailleurs dans la brochure, ces 30 milliards sont tout juste à peine une compensation des manques qui ont fait cruellement défaut à la France pendant des décennies. Donc, en réalité, cette brochure le montre de façon extrêmement, extrêmement précise, parce que les chiffres sont donnés, que ce soit au point de vue effectif ou que ce soit surtout au point de vue des instruments de défense, des outils de défense. Nous sommes dans une infériorité maintenant cruelle par rapport à ce qui se passe dans le monde et par rapport au rôle qu'on prétend jouer. Moi, je donne simplement un exemple. Bon, on a un porte-avions, très bien, alors ça nous distingue des autres Européens, mais ce porte-avions, il est unique, premièrement, et deuxièmement,
on l'envoie, et
quand on envoie 8 frégates pour l'accompagner, on envoie pratiquement toute la marine française. Donc, maintenant, toute la marine française est du côté de la mer Rouge. Et il suffit qu'il y ait un incident, et puis il ne reste plus rien de la marine. De telle sorte qu'on a été d'ailleurs obligé d'annuler la parade navale qui était prévue à l'occasion des 400 ans de la marine nationale, créée sous Louis XIII, si je ne m'abuse. Et cette marine nationale, donc, se trouve à l'heure actuelle... Elle a certes de très beaux outils, comme l'armée de l'air, grâce à Dassault. Oui. Mais ces outils ne sont pas en nombre suffisant, ne sont pas assez opérationnels. Ne sont pas assez opérationnels.
Des drones.
Et on n'a pas... Bref. Cette brochure est extrêmement intéressante. Alors, je vous recommande, pour les personnes qui sont intéressées par les questions nationales, de vous la procurer. Il suffit d'écrire au 1 rue de Courcelles, 75008, c'est-à-dire vous écrivez soit Cercle au Vauban, soit Politique Magazine, et vous faites votre commande. Cette brochure, c'est pour 15 €, vous l'avez, frais de port compris. Donc, et il n'y a pas seulement que cette brochure. Il y a des brochures sur l'éducation nationale, il y a des brochures sur les institutions françaises, nous aurons peut-être bientôt une brochure sur la diplomatie française. Enfin, bref, il y a tout un projet de présentation d'une sorte de, j'allais dire, je ne sais si le mot convient, parce que le mot programme est un mot horrible, c'est un mot de parti, mais tout un projet de redressement de la France grâce à ces brochures du Cercle Vauban, et qui sont évidemment indépendantes de toute tâche partisane, puisque nous ne sommes pas partisans de la forme républicaine du gouvernement, si c'est permis de s'exprimer ainsi, de façon correcte, dans une radio correcte.
Vous avez d'ailleurs commis un article, je ne trouve plus le titre, à ce propos des chefs d'État.
Oui, oui. Dans Politique
dans
Magazine.
Politique Magazine, voilà. Très intéressant.
Alors, maintenant, nous allons commencer un dialogue avec Gilles Varange.
Bah, avec plaisir.
Ancien rédacteur en chef et grand reporter à La Voix du Nord, on peut le dire.
Pas rédacteur en chef, je dirigeais les services parisiens.
Les services parisiens du journal.
Et j'étais, oui, effectivement, journaliste économique et puis et grand reporter également. Et
vous avez été rédacteur en chef à la Nouvelle Revue Universelle.
Voilà, la Nouvelle Revue Universelle et collaborateur et pendant longtemps de Politique Magazine.
Oui. Alors, eh bien, nous allons faire un tour d'horizon, Gilles. Vous avez certainement réfléchi, puisque je vous ai téléphoné de façon un peu rapide hier pour vous demander votre intervention dans cette émission sur des sujets de politique. Là, on commence. Politique intérieure ou politique extérieure?
Je pense politique étrangère, si
politique
vous voulez.
Politique étrangère,
que, bon, je pense que ce qui nous a tous le plus frappé ces dernières semaines, c'est évidemment, d'une part, bien sûr, la guerre en Iran, ça, c'est une chose, et d'autre part, le voyage de Trump, en Chine populaire, voyage qui a déclenché, comme toujours, en France... une multitude de réflexions ironiques, étant entendu, bien sûr, pour la quasi-totalité de la classe.
Que Trump se faisait avoir. Oui.
Voilà, que c'est un imbécile, un crétin parfait. Voilà, alors, il est vrai, bon, il faut bien reconnaître que le personnage a des aspects tout à fait exaspérants. C'est un butor, il a des côtés mythomanes. C'est vraiment un homme agaçant. On le voit actuellement se lancer d'un jour à l'autre dans des déclarations guerrières outrancières, puis ensuite des appels à la paix. Enfin bref, un jour pied droit.
Je vais écraser l'Iran demain.
Un jour pied gauche. Bon, il n'empêche que les réflexions de la classe médiatique m'amusent énormément, parce qu'on nous a présenté cette rencontre, enfin cette visite, comme une espèce de d'humiliation pour Trump. Ah, par exemple, alors comme ils ne savent pas, par exemple, on nous a raconté que c'était une grande humiliation pour Trump que Xi Jinping, chef d'État, ne soit pas venu l'accueillir au pays.
Alors que c'est le vice-président.
Voilà. Alors, étant entendu que, à ma connaissance, et Dieu sait si je connais bien la Chine, j'ai un fils qui y vit depuis 22 ans, un petit-fils qui est né à Pékin, etc. Bon, jamais, autant que je me souvienne, dans l'histoire de la Chine populaire, un président chinois ne s'est déplacé pour aller accueillir le président d'une nation étrangère, quelle fût. Donc, ça n'est pas du tout un événement nouveau. Alors, autre chose, on a beaucoup ri hier encore. J'avais des amis qui disaient quand même qu'est-ce que Trump a pu se faire humilier. Hein, quand même, on a bien ri quand Xi Jinping, parce qu'il est entendu que Xi Jinping est...
Il serait plein d'humour.
Quand il est avec Trump, c'est lui le personnage honorable. Hein.
Oui, ça
va de soi pour nos élites médiatiques et pour, je pense, la quasi-totalité... enfin, en tout cas, une grande partie de la population française. Et alors, mes amis, lors d'un déjeuner avant-hier, me disaient « Est-ce que tu te rends compte que, quand même, il a rappelé que la Chine avait 2500 ou 3000
ans
d'histoire. » Oui, 5000 ans d'histoire.
Alors,
Trump, quelle humiliation. Non, c'est ridicule. Enfin, il ne viendrait à l'idée d'aucun Américain de penser qu'il est inférieur parce qu'il n'a que 250 ans d'histoire. Au contraire, aux yeux des Américains, c'est un grand avantage. Hein, n'est-ce pas? C'est une population nouvelle. Il y a chez les Américains un côté théorie de l'évolution. Hein, qui fait que, d'ailleurs, qu'on employait généralement à l'égard de la Chine. Moi, je me souviens, quand vous lisez Pierre Loti, Par exemple, là, les derniers jours de Pékin, Pierre Loti vous raconte que la Chine, oui, ça a été une immense civilisation. Mais maintenant, ils sont tellement vieux. Oui. C'est une société tellement vieille, elle est condamnée. Elle va être remplacée par les jeunes boy scouts européens. Voilà. C'était le langage il y a encore très très peu de temps. Je change là tout à fait de conversation. Je me souviens que lors d'un voyage au Liban, d'ailleurs, un confrère en présence d'une religieuse qui lui disait « Mais vous n'avez pas l'air inquiet de l'islam, etc. Vous vous rendez pas compte du danger que ça peut être ?» Et lui disait « Non, mais écoutez, il faut quand même comprendre. Le christianisme, c'est 2000 ans. L'islam, c'est 1400 ans. C'est pas pareil. Le christianisme a eu le temps de se polir, de se civiliser. Eux, ils ont quand même 600 ans de retard. Mais dans 600 ans, bon, ce à quoi je lui ai rappelé. » Alors la religieuse était, disait « J'ai jamais entendu une réflexion de ce genre. Sœur, oui. Vous m'étonnez beaucoup, mais je disais, ma sœur, vous avez typiquement en face de vous un représentant de la classe médiatique française qui cherche des prétextes absolument, quels qu'ils soient, à l'islam. » Et je lui disais, l'argumentation par ailleurs est idiote, parce que alors à ce moment-là, on pourrait dire la même chose de l'hindouisme, oui. Qui lui a aussi 3 ou 4 000 ans d'histoire, et apparemment ça les a pas rendus plus doux. du moins, on en a l'impression. Enfin bref, je reviens là-dessus, tout ça pour dire que je ne sais même pas si Trump a été gêné par cette réflexion. Je ne crois pas. Ses yeux,
d'ailleurs, bon, il a répondu dans son propre discours au cours de ce banquet. Il a répondu en parlant de ses 250 ans.
Oui, et
il a fait exprès, évidemment. Oui, parce que
c'est un détail qui m'avait échappé.
Il a relevé le défi.
Absolument. Et alors, on continue toujours sur cette lignée absolument maintenant invraisemblable de nous expliquer que les États-Unis, c'est fini. C'est la Chine, bien sûr, qui va prendre la place. Hein. D'ailleurs, Xi Jinping a fait une certaine allusion quand il a parlé du piège de Thucydide. N'est-ce pas que
tout le monde en est là.
Voilà, d'après le livre de... Je ne me souviens plus du nom du théoricien américain qui a rédigé le livre et qui explique...
Qui a repris la guerre du Péloponnèse.
Voilà, la guerre du Péloponnèse, bien sûr, et qui explique que presque toujours, quand on a une puissance montante et une autre descendante, on arrive à un conflit. Je crois qu'il a calculé que dans 12 cas qu'il a pris, on avait eu une guerre, et une guerre terrible.
Et en fait, c'est une théorie construite sur Thucydide, et pour moi qui ai traduit Thucydide j'étais jeune,
ce qui me frappe, si vous vous souvenez, dans les années 80, pendant 10 ans, vous avez l'ensemble de la classe médiatique qui s'est excitée autour d'un thème, le Japon va dépasser les États-Unis.
Très bien.
Bien qu'ayant une population infiniment moindre, ils sont tellement à la pointe de progrès technologique, du progrès économique, que les États-Unis sont condamnés. Bon, on a vu ce que ça donnait. Il a suffi que les Américains fassent pression sur les Japonais pour les obliger à réévaluer leur monnaie, le yen, pour que le Japon entre dans des difficultés économiques.
Infinies dont ils ne sortent pas.
Insurmontables, dont ils n'arrivent plus à sortir. Donc, personnellement, si vous voulez, si je peux me permettre de donner un avis,
c'est ce qui nous intéresse.
La Chine a atteint son apogée. Elle ne dépassera pas les États-Unis. Elle est condamnée maintenant à une régression.
Et d'autant plus que la démographie ne va pas suivre.
Absolument. Oui.
Et par conséquent, ce qui suit la démographie, c'est-à-dire évidemment la jeunesse, le renouvellement des esprits, le renouvellement des ingénieurs.
Absolument, mais ça n'est pas le même phénomène. Ça n'est pas le seul phénomène. C'est qu'aujourd'hui, la Chine est à 4,4% de croissance annuelle.
Alors qu'il était...
Ils étaient généralement à 10, 12, 8. Et en général, il y a encore quelques années, je me souviens qu'on nous expliquait qu'au-delà, en dessous de 8%, la Chine risquait de connaître des phénomènes sociaux extrêmement graves. Parce que quand on compare le volume des activités chinoises et américaines, on oublie toujours une chose, c'est que les Américains sont, je pense maintenant, je vais dire 350 millions. De l'autre côté, vous avez 1,4 milliard. Et sur ces 1,4 milliard, vous avez à peu près 600 à 700 millions de Chinois qui sont des ruraux, et dont le niveau de vie n'a pas...
dont la misère est totale.
N'a pas beaucoup augmenté, stagne. Hein, et vous commencez à avoir, je pense, des mouvements de colère qui risquent de se développer dans les années qui viennent. Il y a déjà une crise de l'immobilier causée par le phénomène... considérable, causée par le phénomène que vous évoquiez,
des villes entières qui n'ont pas de population.
Des villes entières où il n'y a pas de population. Je me souviens, il y a deux ans, nous passions avec mon épouse dans une ville du sud de la Chine, et elle était vide.
Oui.
Mais vide, c'est absolument incroyable.
Il y avait avec des feux rouges.
Avec des autoroutes qui allaient de nulle part à nulle part.
Oui,
je me souviens, une auto, ça s'arrêtait brusquement. On faisait demi-tour et on repartait. Voilà, on oublie ce phénomène quand on parle de la Chine. Donc, pour en rester aux chiffres, par exemple, il y a encore 7-8 ans, la Chine était, pour ce qui est des comparaisons entre PIB, produit intérieur brut, à 75% du PIB américain, avec une population, encore une fois, très supérieure. Hein. Elle est retombée à 67%. C'est un signe, en quelques années. Voilà.
Et un seul enfant par famille, c'était pour l'économie.
Il s'agissait
pour redresser l'économie.
D'ailleurs, on accuse généralement Mao. En fait, c'est après Mao. Mao était aussi favorable à
la restriction de naissance.
Mais lui, il avait des moyens particuliers pour faire, de toute façon, restreindre la population, puisqu'il en a tué une cinquantaine de millions. Mais la population continuait quand même à grossir très vite. Mais c'est à partir des années 85-90 que la Chine vraiment est entrée dans la politique de l'enfant unique. Et c'est une catastrophe parce que c'est un phénomène qu'il a évoqué. Mais si on regarde les chiffres, alors bien sûr, il y a des courbes basses, courbes hautes. Laurence, votre épouse, expliquerait ça.
Très bien.
Très, 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 très bien de par son métier. Mais on estime aujourd'hui que les Chinois vont perdre 250 millions d'habitants d'ici à 2050.
Et par conséquent, la demande intérieure ne va pas se substituer à la demande extérieure.
Je comprends.
Ça pose un problème énorme à la Chine, parce qu'elle va avoir des excédents qu'il faut absolument qu'elle écoule. Et il faut être, évidemment, les Européens, les crétins d'Européens, en particulier les crétins de Français, se laissent avoir en achetant les produits chinois et en s'imaginant qu'ils sont supérieurs aux produits...
Ils sont actuellement les Chinois sont actuellement 1,4 milliard. Je vous dis 250 millions de moins en 2050. Si on essaie de pousser jusqu'à 2100, alors là évidemment ça devient très très aléatoire, mais on estime que la Chine, alors la fourchette est large, mais on estime que la population chinoise passera de 1,4 milliard au plus haut 730 millions. Au plus bas, 660 millions. C'est un phénomène absolument inimaginable. Et bien sûr, alors, même si on essaie... D'abord, on sait combien il est difficile de relancer la natalité dans une population. Oui. Pour l'instant, personne n'y a jamais réussi. Non. Même Poutine, qui a consacré des sommes gigantesques, il ne réussit même pas à maintenir au contraire même. Donc, Dieu sait si c'est difficile.
Quand on a pris des habitudes mauvaises...
Et en Chine, vous avez un autre problème, c'est que vous étiez... Quand on a lancé la politique de l'enfant unique, nous étions... les Chinois étaient encore en grande partie une société rurale. C'est-à-dire que la plupart des Chinois n'avaient pas de retraite. Hein? Or, la tradition veut en Chine que ce soit l'épouse du mari qui entretient la famille du mari.
Ah.
Voilà. Donc, le problème était le suivant. C'est que s'il y a un enfant unique... Et si vous avez une fille, c'est une catastrophe.
Oui.
Vous n'avez pas de retraite et personne ne va vous entretenir.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est qu'on a eu un génocide absolument épouvantable. C'est que des dizaines de millions de petites filles ont été assassinées à leur naissance. C'est un phénomène dont on ne parle jamais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un déséquilibre démographique gigantesque. Non seulement il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais en plus, les hommes ne trouvent pas d'épouse.
Oui.
C'est un phénomène absolument, absolument prodigieux. Prodigieux. Hein, et d'autant que, jusqu'à une époque récente, il était interdit... On interdisait aux femmes chinoises de faire des examens pour savoir si on avait une chance d'avoir un garçon ou une fille. Parce que, bien sûr, il s'agissait d'éviter les avortements. Mais comme on ne pouvait pas avorter, ben on tuait purement et simplement, en disant que voilà, l'enfant était mort à la naissance. C'est quelque chose d'absolument...
Quelle civilisation.
D'absolument prodigieux. Mmh. Hein? Alors, les dirigeants chinois sont bien conscients de ce phénomène. Ça explique notamment le fait qu'ils essaient de développer leurs exportations, mais de façon absolument considérable. Mais ils se heurtent aujourd'hui. Par d'autres aussi, en Argentine, tous les gens conscients. Sauf en Europe. Hein. Bon, mais l'Europe ne suffira pas. 500 millions de crétins ne peuvent pas compenser
le déficit de la consommation que les Européens s'imaginent avoir, et en particulier les Allemands.
Comme vous avez en même temps un début de crise économique en Chine, vous avez la consommation qui ralentit fortement. L'un des signes, par exemple, c'est que l'un des plus grands magasins de ces 30 dernières années, qui était un peu le symbole de la libéralisation de la Chine,
qui vient en France,
économique, c'était les Galeries Lafayette. Ah. C'était l'un des plus grands magasins de Pékin, l'un des plus fréquentés par les Chinois. Il vient d'annoncer sa fermeture. C'est très significatif d'une baisse considérable de.
Alors en revanche, ils sont en avance et sur les ventes en ligne.
Oui, bien sûr.
Et les trucs à bas prix, quoi.
Oui, tout à fait.
Ils s'installent en France, là, le fameux China.
Ce sont des milliers, des milliers de petits colis qui partent de Chine.
Perturbe le BHV.
Essaye vainement d'arrêter, mais qu'on n'y arrive pas, évidemment.
Alors, bien sûr, ils sont conscients de ce phénomène, les dirigeants. Donc, en même temps, ils poussent considérablement leur effort militaire. Parce que, ma foi, les Chinois, généralement, n'ont pas ils peuvent être très subversifs à l'étranger, mais disons qu'ils n'ont pas un esprit de conquête très développé. Ça, c'est un phénomène historique. Mais par contre, ils sont en train de pousser leurs dépenses militaires, parce que ça relance aussi, par ailleurs, l'activité. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un conflit on ne peut pas imaginer un conflit entre la Chine et les États-Unis. Malgré tous ces efforts, la Chine a un budget militaire qui représente le tiers de celui des États-Unis actuellement. Alors, ils développent considérablement leurs porte-avions, sous-marins, des choses de ce genre. Mais je pense que ça, c'est plus dans un contexte Taïwan. Que dans un contexte, envers Taïwan, que dans un contexte d'affrontement.
Alors, à votre avis, est-ce que Trump a réellement abandonné Taïwan ? En fait, il ne l'a pas dit.
Pas du tout. Je n'ai pas du tout le sentiment que non, ce serait beaucoup trop grave. Si les Américains, Trump ou quel que soit le président américain, abandonnent Taïwan, c'est à terme avoir une révolution diplomatique qui serait qu'inévitablement le Japon se rapprochera de la Chine.
Oui.
Et ça, c'est la fin de la domination américaine dans tout le Pacifique.
Oui.
Si les Japonais voyaient un signe comme celui-là, il est évident qu'à ce moment-là, ils chercheront forcément, quitte à être dans un phénomène de domination.
D'autant plus qu'on sait très bien comment la Chine traite ses reconquêtes. On le sait avec.
Le Tibet, par exemple.
Et puis Hong Kong.
Bien sûr. On sait bien que si demain la Chine s'emparait de Taïwan, on sait bien que les institutions, je ne vais pas dire démocratiques, mais en tout cas de liberté, disons, qui assure les libertés fondamentales à Taïwan, serait très rapidement...
Et les Américains ne pourraient plus se fournir un microprocesseur auprès de Taïwan.
Voilà. Mais donc je suis absolument persuadé que Trump n'abandonnera pas, et ses successeurs n'abandonneront pas Taïwan. Et l'autre phénomène, c'est que, bien sûr, Trump ne souhaite pas que Taïwan proclame son indépendance. Ça, on est dans un contexte diplomatique qui fait que...
Chacun joue son rôle.
Voilà, chacun son régime, mais aux yeux, pendant longtemps d'ailleurs, même aux yeux des Taïwanais, il n'y a eu qu'une seule Chine. Il ne faut pas oublier que Chiang Kai-shek n'a jamais eu l'intention de proclamer l'indépendance de Taïwan. Tout le but de Chiang Kai-shek, c'était un jour ou l'autre, lui...
De récupérer la Chine continentale.
Ou son successeur, Chiang Ching-chiao, son fils, de reconquérir la Chine. La Chine continue. Il y a d'ailleurs, c'était pas un rêve fou. Il y a une époque où ça aurait pu s'accomplir, je pense. C'est à la mort de Mao, dans les années 76. On oublie que Deng Xiaoping, grâce à son ami Chuan Lai, avait pu revenir au pouvoir. Il était vice-premier ministre, et puis très très vite. Il a été éliminé de la scène politique à nouveau, jusqu'à ce que la bande des quatre, qu'on appelait la bande des quatre, soit éliminée. Alors on se demandait toujours où, pendant ces quelques années où Deng Xiaoping a disparu, où était-il ? En fait, on sait aujourd'hui qu'il était à Canton, protégé par la 6e armée. l'une des armées les plus puissantes de Chine. Et on sait aussi que, par mesure de sécurité, les dirigeants de la 6e armée avaient pris contact avec les dirigeants taïwanais en leur disant « Bon, ben, si demain on entre en guerre civile, on aura besoin de vous. » Ouais. Donc là, on a eu une espèce d'opportunité qui ne s'est pas concrétisée parce que finalement, les dirigeants de Pékin ont hésité devant les risques de guerre civile et ont ramené dans un premier temps Deng Xiaoping à un poste qui n'était pas le poste suprême. Et bon, par son intelligence, par les liens d'amitié qu'il avait un peu partout, bien sûr, après, Deng Xiaoping a pu imposer un pouvoir qui était... un pouvoir quasi absolu, même s'il était inavoué. L'autre phénomène, c'est que il ne faut pas oublier que une grande partie des gens de Taïwan ne sont pas favorables à l'indépendance.
Oui.
On oublie que le Kuomintang, ça reste l'un des grands partis de Taïwan face au parti démocrate progressiste. Les gens du Kuomintang ne veulent absolument pas d'une indépendance. Je ne sais pas s'ils continuent encore à rêver de récupérer, mais en tout cas, ils continuent à rêver d'une réunification un jour de la Chine. Ils se considèrent comme chinois. D'ailleurs, ce qui est très remarquable, il ne faut pas non plus opposer les gens vraiment originaires de très longue date de Taïwan et les opposer aux Chinois venus, les 2 millions de Chinois arrivés avec Chiang Kai-shek en 1949. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé quand j'allais à Taïwan, c'est que quand vous parlez à un Chinois de Taïwan, quand vous lui demandez « où est-ce que vous êtes né ?» alors que le type a 20 ans vous dit à Canton, à Shanghai, à Pékin, il parle de sa famille. Il se considère encore, il a un lien indestructible avec la Chine.
Vraisemblablement qui existe encore.
Et je pense qu'il doit y avoir une multitude de liens secrets. Les Chinois sont...
On ne peut pas tout contrôler.
Puis les Chinois sont géniaux.
Revenons à Trump, parce que ça intéresse certainement nos auditeurs. Revenons à Trump. Donc, en fait, contrairement à tout ce qu'on a dit... Il ne s'est pas forcément fait avoir.
Non, il ne s'est pas fait.
Il a mené son affaire comme il l'entendait, parce qu'il a besoin d'avoir quoi ? D'avoir la paix du côté de la Chine.
Voilà, il
a obtenu... Pour pouvoir mener son opération, finir son opération iranienne.
Voilà, et je pense qu'il a obtenu...
Gilles Varange.
Il a obtenu secrètement... je ne vais pas dire l'aval de Xi Jinping, mais disons que je pense qu'il sait maintenant que s'il intervient militairement, je ne sais pas s'il le fera, Xi Jinping, lui, ne bougera pas. Il protestera, on voit bien. Et d'autant que Xi Jinping lui-même se rend bien compte que, par exemple... s'il intervenait, ou si vraiment il faisait monter la pression avec les États-Unis, vraisemblablement, il provoquerait l'explosion des BRICS.
Oui.
Hein,
oui.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une semaine, il y a eu un sommet des BRICS. C'est vrai, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Égypte, mais justement, ces gens-là sont tellement différents, avec des alliances tellement différentes.
Même parmi les pays arabes, ils ne sont pas unis.
Or, on s'est bien aperçu.
Le Qatar n'est pas l'Arabie Saoudite.
Les BRICS ont été absolument incapables de rédiger un communiqué commun. Sur l'Iran. Ils se sont séparés. Quand vous lisez le machin, on parle beaucoup d'économie. Hein, on comprend. Ce sont des gens qui ont besoin de se rencontrer parce qu'ils veulent échapper justement au poids des empires.
Oui.
Des empires. Alors bon, vous direz pourquoi vont-ils avec Pékin, etc. Parce que je pense, actuellement, les États-Unis conservent un rôle tellement dominant qu'ils ont besoin de chercher, pas des alliances, mais des contrôles.
Faire valoir, d'autres monnaies que le dollar.
Absolument. Absolument. On parle beaucoup sur le plan monétaire. Il est bien évident que les BRICS ne vont pas créer une monnaie. Non. C'est impossible. Ces pays ont des intérêts économiques, des niveaux de développement tellement différents qu'on ne peut pas imaginer qu'ils puissent créer demain une monnaie commune fondée sur l'or et puis des matières premières, par exemple. C'est un rêve. Par contre, je pense qu'ils sont en train de s'entendre pour s'échanger dans leur monnaie propre,
oui.
N'est-ce pas ? Bon, et pour eux, c'est une garantie absolument formidable. Par exemple, on comprend très bien pourquoi l'Arabie Saoudite a besoin de ne pas être complètement dépendante du pétrodollar, de dollars. On comprend très très bien. Mais je pense que ce qu'a obtenu Trump, en tout cas au cours de ce voyage chinois, c'est qu'il a, il sait qu'il a, il a les mains libres. J'entends réellement libre. Il sait que demain, s'il recommence à bombarder à tout cran, je ne sais pas si ça se fera, je ne sais pas s'il a intérêt à le faire, mais en tout cas, il sait bien qu'il n'aura pas de confrontation avec la Chine pour ce sujet. La Chine préférait évidemment, et je pense qu'elle joue en sous-main, elle préférait qu'il y ait un accord qui évite, qui permette la survie, à mon avis, provisoire de toute façon. Mon sentiment personnel, mais quand j'étudie la chose, c'est que de toute façon, le régime iranien à terme est condamné. Il ne survivra pas, quoi que disent nos confrères qui veulent absolument faire survivre ce régime tellement enviable, souhaitable.
Les Iraniens ont battu les Américains.
C'est ce qu'on entend. Ils ont gagné la guerre.
Même chez nos amis. Oui.
Voilà, ils ont gagné la guerre. Surtout chez nos amis, d'ailleurs, j'ai l'impression.
Hein, ils sont tellement contents de pouvoir avoir une petite satisfaction contre
l'Amérique.
Ce qui se comprend.
Tout à fait. Alors, pour revenir, pour revenir à Taïwan, de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait le risque d'une invasion chinoise militaire, en tout cas telle qu'on l'entend. Un signe évident, par exemple, c'est que les experts estiment que pour envahir physiquement, j'entends Taïwan, ils estiment que la Chine aurait besoin de 400 porte-hélicoptères, transport de troupes, c'est ce qu'on appelait les barges de débarquement. Moi, aujourd'hui, c'est immense. Vous savez, c'est cet engin que Poutine avait commandé, il en avait commandé deux.
Les
fameux Mistral. On estime qu'il faudrait l'équivalent de 400 000 Mistral, parce qu'au bord, il y a 500 hommes quasiment.
Bien sûr,
donc il faudrait 400.
Nous en avons deux, nous.
Voilà,
trois.
Oui,
enfin,
oui.
Trois. Nous avons trois, dont deux disponibles.
Voilà, 400 Mistral, parce qu'attention, l'armée taïwanaise, c'est une armée qui n'a que des armes classiques, mais une armée puissante quand même, donc qui est sur une île. Ce qui est un gros avantage quand on se descend. Donc il faudrait 400 engins, barges ou équipements de ce genre. Or, jusqu'à présent, les Chinois construisent à peu près tout sauf ça.
Ah, oui.
Ils en ont une quarantaine. Hein. Donc on est très très loin du compte. Alors Xi Jinping continue à dire que c'est prévu pour avant 2050. Ça laisse encore quand même 24 ans de marche. Lui ne sera plus là de toute façon. Donc, quelques engagements qu'il ait pu prendre, ce n'est pas lui qu'on accusera. Moi, je crois plus à une stratégie qui est différente quand on voit qu'ils sont en train de construire deux. Ils ont déjà 3 porte-avions à la mer, ils en ont 3 en préparation, des dizaines de frégates, de destroyers, etc. Bon, je crois plus un jour, dans un futur plus ou moins proche, à un blocus de l'île, un blocus général, oui. Voire plusieurs centaines de navires. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, l'initiative de la guerre revient aux Américains.
C'est ça.
Ou ils interviennent ou ils n'interviennent pas. Et on peut penser, ils peuvent penser qu'avec Trump, ils ne feront pas. Mais si demain, il y a à nouveau un Biden ou un Jimmy Carter, ils peuvent y aller. On ne sait jamais.
C'est ça.
On ne sait jamais. Hein. Ah, mais par contre...
En même temps, ils s'achètent des ports sur le bord de tous les océans. Ils achètent les ports européens, les ports africains.
Absolument, absolument. Encore que Trump a compris le truc. Par exemple, il leur a repris le canal de Panama.
Oui.
Hein, ce qui n'est pas rien. Il est en train...
Il leur a repris le Venezuela.
Il leur a repris le Venezuela aussi. Oui.
Il va reprendre Cuba, vraisemblablement.
Ça, c'est pour les mois qui viennent,
je pense. Oui, je pense.
Bien entendu. Non, parce que, par contre, il est bien évident que le Taïwan est vital pour la Chine sur un plan stratégique. Hein. Quand vous regardez le continent chinois, vous voyez que vous avez autour... C'est la mer... est complètement fermé autour de la Chine.
Oui.
Vous avez la Corée du Sud, vous avez le Japon, vous avez Taïwan, vous avez les Philippines, vous avez après Bornéo, toute la chaîne indonésienne. C'est une mer entièrement fermée. Hein? Et alors le problème, c'est que cette mer entièrement formée, toute cette mer, cette immense mer de Chine, elle a une profondeur de 200 mètres.
Et il faut passer les détroits.
Voilà. Et quand on doit passer... Et pour un sous-marin nucléaire, qui est quelque chose d'immense, il faut qu'il ait une profondeur d'au moins 1000 mètres pour devenir indétectable par les satellites.
Ah oui.
Voilà. S'ils ont Taïwan, c'est l'ouverture sur le Pacifique.
C'est ça.
Demain.
Oui.
Actuellement, dès qu'un porte-avions, qu'un sous-marin nucléaire chinois quitte. Tout le monde le repère, les Japonais, les Coréens, les... Bon, donc pour eux, c'est quelque chose d'absolument vital. Après, bien sûr, il y a autre chose, il y a les puces, hein. Bon, c'est bien que c'est la spécialité de Taïwan, donc là aussi, c'est...
Jamais les Américains n'accepteront.
Donc tout ça explique que les Américains, à mon avis, défendront toujours Taïwan, mais ils ne veulent pas énerver les Chinois par une proclamation d'indépendance qui, là, serait une rupture définitive.
Alors, maintenant, quelles sont les cartes de Trump du côté du Moyen-Orient? Donc, il a l'Arabie Saoudite.
Il a les Émirats... Arabes Unis. On peut peut-être rajouter l'Irak même, en dépit de tout ce qui se produit. Ça a été l'immense erreur de Joe Biden. Joe Biden, je crois qu'il savait pas. Il était gâteux. Oui, il n'avait plus la capacité de décider. Hein. Il n'avait plus la moindre initiative. Je ne sais pas qui dirigeait réellement les États-Unis à cette époque. Peut-être Obama, on le dit. Ça n'est pas impossible. Ou les gens restaient fidèles à Obama. En tout cas, ça n'est pas Biden qui dirigeait le pays. Il a laissé se dissoudre les liens que Trump avait réussi à créer avec ce qu'on appelle les fameux
accords d'Abraham.
Et l'une des obsessions, on peut dire, hein, même j'ai cherché un mot peut-être un peu moins fort, de Trump, c'est de précisément non seulement de renforcer, mais de consolider les accords d'Abraham. Or, paradoxalement, contrairement là aussi ce que disent mes confrères, enfin peut-être est-ce moi qui là ai une faille de jugement, ce qui se passe actuellement renforce considérablement les chances de voir se consolider, au contraire, renforcer
quand même avec ces accords. Un gros ennui que représente maintenant la politique de Netanyahou.
Bien sûr.
C'est vrai que à l'heure actuelle, tout serait possible au Moyen-Orient s'il n'y avait pas cette volonté israélienne de profiter de la situation.
Bien sûr, pour
poursuivre une politique.
Alors, tout à fait. Mais je crois que en ce domaine, ils font bien distinguer les dirigeants arabes et les populations arabes.
Oui.
Les populations arabes,
effectivement. Et la même chose du côté d'Israël, probablement.
Alors, bien sûr, bien sûr, les dirigeants, même si ce sont des régimes autoritaires, non démocratiques, les dirigeants arabes sont bien obligés de tenir compte de l'existence de ces sentiments populaires. Mais en même temps, ce qui vient de se produire, c'est-à-dire les ripostes extraordinairement violentes, brutales de l'Iran, à l'égard de par exemple des Émirats Arabes Unis, même du Qatar.
Oui, bon, ils viennent de détruire encore un pays.
Aéroport. Cherchent maintenant une garantie. Par exemple, les Émirats Arabes Unis, on le voit bien, cherchent une garantie du côté d'Israël. C'est très significatif. On sait que Israël a créé une base. Maintenant, sur le territoire des Émirats Arabes Unis, une grande piste pour lui permettre. Parce qu'attention, quand vous partez d'Israël pour bombarder l'Iran, ça fait plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Là, ils seront vraiment en face.
Oui.
Hein. Mais bien sûr, les Émiratis
disent que non,
hein, démentent absolument catégoriquement. Hein. Donc, paradoxalement, je pense que, en dépit de cette politique de Netanyahou que vous évoquiez, Hilaire, je crois que les événements actuels ne peuvent que renforcer les accords
d'Abraham.
Et plus d'ailleurs, paradoxalement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais plus les Américains auront l'air de se dégonfler, plus ces pays arabes seront tentés de se rapprocher secrètement, discrètement, confidentiellement d'Israël, parce que c'est une énorme puissance militaire. Hein. Il faut bien s'en rendre compte, Israël. Hein. Hein. Alors là, effectivement, bon, alors on comprend très bien, on voit très bien que qui possède le Proche-Orient demain est en mesure d'asphyxier
le monde.
Et les Chinois surtout.
Et les Européens.
Oui. Mais on compte si peu, à mon avis, dans les considérations américaines aujourd'hui. Ils nous vouent un tel mépris Alors, je crois qu'ils avancent ce prétexte de le fait qu'on a, sur le plan militaire, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait. En fait, ils nous méprisent pour nos politiques intérieures, en particulier nos politiques d'immigration.
Vous parlez des Américains.
Je parle des Américains.
Oui, bien sûr.
Ils nous méprisent pour ça, absolument.
Le monde entier nous méprise.
Oui, le monde entier nous méprise pour ça. Et d'abord, d'ailleurs, les pays d'où viennent les migrants qui déferlent sur nous.
Il
n'y
a que Macron qui s'imagine qu'il est un personnage intéressant.
Mais... Voilà. Alors, bien sûr, c'est ce qu'évoquait Hilaire, l'un des drames dans cette situation, c'est le fait que, bien sûr, alors, vous dites Netanyahou, il faut tenir aussi du rapport de force à l'intérieur d'Israël.
Oui,
à mon avis, c'est un problème qui est appelé à durer. Parce que même si Netanyahou était renversé demain, il y a un changement ethnique, qui s'est produit. Il y a 40 ans, ce qu'on appelle les orthodoxes nationalistes. Attention, parce qu'il y a des orthodoxes, eux, ils ne sont pas dans le coup. Ils se contentent d'être dans leur coin, à Mea Charim, à Jérusalem. Voilà. Ce n'est pas eux dont on parle. Hein. Ce dont on parle, ce sont les colons, quoi. Hein.
Tendance Likoud.
Voilà. Et au-delà.
Et au-delà,
surtout. Je crois que l'un des problèmes, c'est le système électoral israélien qui fait que c'est une. Vous avez une proportionnelle sans seuil. C'est-à-dire que si vous avez 1%, vous avez des élus de toute façon. Quoi, hein. Donc ça a permis aux minorités religieuses nationalistes, mais dans un sens extrémiste, de prendre un rôle de plus important. Or, ces gens, il y a une trentaine d'années, ils représentaient 2,5% de la population. Hein, ce qu'on peut appeler vraiment les extrémistes religieux israéliens. Aujourd'hui, ils sont 12,5%. Voilà. Dans 20 ans, ils seront 25%. À partir de là, vous franchissez un seuil. Hein. Et il n'y a pas d'ailleurs que des gens nés sur place. Hein. Je vais vous donner un exemple. Je crois que j'en ai déjà parlé,
peut-être.
Une des multiples fois où je me suis rendu à Jérusalem avec quelques confrères, j'avais demandé à visiter justement l'une de ces colonies, comme on dit, les plus dures. Voilà. Et donc,
alors, de quel côté?
Alors, c'était du côté de Cisjordanie.
En Cisjordanie.
En Cisjordanie. Hein,
là voilà. Où ils sont en train de,
voilà, bah,
de tirer de l'arabe. Hein,
absolument, oui, absolument. Hein, et donc, tout ça pour vous dire à quel point ça, c'est pas seulement un phénomène proprement israélien. Et donc, nous arrivons dans ce village, et, qui était à cette époque désert, parce que tous les gens étaient au travail, quoi.
Hein, derrière leur charrue.
Ce sont des bosseurs. Hein, quand on dit des colons, c'est une façon. C'est des vrais colons.
Oui.
Tel que on l'entendait dans l'Antiquité. Ce sont des gens qui sont...
Comme en Algérie française.
Oui, absolument. Mmh. Hein, et on voit arriver un type, il me dit « Ah, c'est vous les journalistes! Ah, qu'est-ce que je suis content de vous voir! Je suis revenu exprès des champs pour vous voir !» Et alors on regarde et il dit « Parce que moi aussi je suis français! Enfin, j'étais français, mais j'ai fait mon alia! » Et alors, quand j'ai appris que des journalistes étaient venus là, parce qu'en plus, j'étais journaliste!
Ah oui?
Hein, et alors on lui dit « Ah bon? Et quel journal ?» J'étais à la rubrique politique de l'Humanité.
Voilà, d'accord.
C'est assez incroyable.
Oui.
Et vous voyez comment les gens se transforment.
Oui, bien sûr.
Caméléon, hein, c'est le principe du caméléon. Enfin bon, voilà, c'est vraiment très, 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 enfin, un système amusant.
Étrange,
moi, enfin, puisqu'on parle de ce sujet, alors là, j'en parle pas tout à fait. Je n'imagine pas demain que. C'est trop tard. Je sais pas comment les choses vont se passer. Il se peut que justement ce soit l'un des facteurs qui empêche les accords d'Abraham de se développer. Il se peut que demain la situation au Proche-Orient devienne ingérable. Mais on ne peut plus imaginer la création d'un État palestinien.
Non,
c'est fini. Je sais pas ce qui peut se passer.
Et d'ailleurs, même l'hypothèse, on a beaucoup flatté Charles de Gaulle parce que bon, l'hypothèse de deux États, mais
c'est terminé.
Mais d'ailleurs, lui-même, je suis même pas sûr qu'il y
ait. Oui, mais à l'époque.
Ça faisait bien dans le tableau, mais
tout à fait,
en réalité, tout le monde comprend bien qu'il y a un État qui est solide, qui a une police, qui a une armée, qui a des services administratifs,
qui a un
système d'impôts, et puis que de l'autre côté, il y a une autorité palestinienne qui vit de subventions et donc par conséquent de prévarications.
Arafat, là, à l'époque, je travaillais encore pour la Voie du Nord. Et alors, lors des derniers des dernières rencontres de Camp David avec Clinton, sous Clinton, c'est la dernière chance. Ça a été la dernière chance de créer un État palestinien. Là, je pense que c'était viable. Et à l'époque, les rapports de force étaient tels encore en Israël que c'était imaginable. Donc, c'est le dernier Premier ministre travailliste qui était Ehud Barak.
Ehud Barak.
Voilà. Ehud Barak a proposé à Arafat la création d'un État palestinien qui aurait regroupé Gaza, la Cisjordanie, relié. Alors, tout ça était bon de bricolage, peut-être, relié entre eux. Par un
corridor.
Voilà, par un corridor international, grande autoroute internationale, sous protection de.
Pour aller de Ramallah à Gaza.
Voilà. Et il donnait 96%. Et Jérusalem Est.
Oui, en plus.
96% et Jérusalem Est aux Palestiniens. Hein, les 4%. Qui était là où vous avez vraiment le corridor stratégique,
si vous voulez,
qu'ont créé les Israéliens, hein, pour éviter toute invasion.
Arafat a commis la faute.
Toute invasion ultérieure.
Mais Arafat avait des mauvaises intentions.
Et comme c'était 96%.
C'était en quelle année alors?
C'était juste avant le. C'était dans les derniers mois de l'année 2000. C'était juste avant l'élection. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le 20 janvier. En tout cas, c'était dans les derniers mois du deuxième mandat de Clinton. Hein. Voilà. Hein.
C'est ça.
Voilà. Hein. Et après, tout de suite, bon, bah, de toute façon, c'est Bush qui est arrivé, hein, qui n'avait pas les mêmes intentions. Hein. Voilà. Et donc, Arafat a refusé. Tout a été bloqué sur un seul sujet. C'est le retour des réfugiés. Bon, ça, c'est une fois. Bon, entre nous, ces gens sont partis depuis maintenant 70 ans. J'exagère, non, plus de 50 ans en tout cas.
C'est impossible.
Alors, ces gens représentent maintenant, ils représentent, je sais pas, 3 millions de personnes. Bon, il est évident que ça déséquilibrerait totalement les rapports démographiques à l'intérieur de cette région de l'État d'Israël.
Oui, ça fait trois départements, non, l'Israël, c'est ça? Trois départements français,
à peu près. Oui, ça doit être... J'ai peur de dire une bêtise, parce que là, vous posez une colle, mais je dirais une cinquantaine de milliers de kilomètres carrés, au maximum. Au maximum, c'est tout petit. Hein. Mm-hmm. Quand vous survolez, c'est extraordinaire, parce que vous voyez que s'il n'y a pas la Cisjordanie, il y a un endroit où Israël, les deux parties d'Israël, nord et sud, sont reliées par un corridor de 15 kilomètres.
Ah oui.
C'est pour ça qu'ils veulent. Voilà. C'est pour ça qu'ils font tout pour mettre la main sur le sud Liban, voilà. d'une certaine manière, et tout pour prendre la Cisjordanie.
Conquérant, bah oui, bien sûr.
Voilà, voilà. Mais ça, ils ont voulu. De toute façon, ça a été une une obsession permanente des Israéliens d'envahir la Cisjordanie. Enfin, à l'époque, je me souviens, je m'égare peut-être, mais vous allez vous raconter des anecdotes, parce que je pense que c'est souvent plus parlant que de grandes analyses. Je me souviens qu'au cours de ce voyage dont je vous parle, c'était en 1989, je m'en souviens bien, parce que pendant ce temps-là, on fêtait le glorieux anniversaire
de la Révolution française.
Des 200 ans de la Révolution française. Donc je m'étais éloigné le plus loin possible et j'étais avec un colonel qui me guidait, et un colonel israélien très sympathique d'ailleurs, et il m'avait raconté cette anecdote qui m'avait beaucoup frappé. Il m'a dit, lors de ce qu'on a appelé la guerre des six jours de 1966, je dirigeais une unité face à la Jordanie, et brusquement, dans l'après-midi, nos supérieurs nous ont fait savoir que nos forces s'étaient engagées imprudemment dans le Sinaï et qu'ils avaient subi un désastre et que les troupes égyptiennes, c'est ce que clamait Nasser à la radio, on est en train d'avancer, on va envahir Israël, etc. Hein. Et donc on nous a dit, tant pis, quoi qu'il puisse arriver, il est vital que toutes les troupes israéliennes marchent vers le sud du pays, vers le Sinaï. Il faut arrêter à tout prix les forces. Hein. Alors, ils ont dit, peu importe, vous pouvez utiliser la radio, vous pouvez, mais le tout, c'est d'aller descendre le plus vite possible face aux troupes égyptiennes.
Et en fait,
face aux troupes égyptiennes. Et lui dit, j'avais à l'époque une quarantaine d'années, j'avais un gosse de 20 ans qui était là-bas à la frontière. Oui. Je me disais, peut-être que mon fils est mort maintenant, etc. Il dit, j'étais ravagé. Hein, et il dit, on a avancé comme ça, une immense colonne. Puis brusquement, la nuit est tombée, et l'on a dit, arrêtez tout. Maintenant, vous faites demi-tour. Plus une communication radio, interdiction de parler, interdiction de fumer. Vous n'existez plus. Et il dit, on est reparti d'où on venait. Et le lendemain, les Jordaniens avaient appris qu'il n'y avait rien en face. Mais les Jordaniens n'avaient pas du tout envie d'attaquer. On leur dit, il n'y a plus rien. Les Syriens aussi. Et c'est de cette façon que s'est déclenchée. Alors là, la guerre avait contre la Syrie, qui a permis de prendre le Golan et qui a permis de prendre la Cisjordanie. Mais donc, il y avait bien là un plan absolument.
À la manière dont les Israéliens sont capables de faire des plans.
Voilà, mais je m'égare là.
Pas du tout. De ce point de vue-là, les Israéliens sont infiniment supérieurs, évidemment.
Enfin, voilà. Alors, sur le plan de la politique.
Nous vous rappelons que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie et Hilaire de Crémier, qui donc supplée notre ami Jacques Trémolet de Villers, qui est titulaire de l'émission, si je puis dire. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Varange, journaliste, essayiste, pour l'actualité nationale et internationale, plutôt internationale, je crois, depuis tout à l'heure. Et cette émission donc sera diffusée le jeudi 21 mai.
Merci. Tout ça est extrêmement intéressant. Et alors, comment voyez-vous...
Alors, il y a un petit bobino, Hilaire.
Ah bon,
notre invité fréquent.
Faisons le bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous reprenons, Hilaire.
Alors, comment, pour finir sur cette partie internationale, comment voyez-vous l'avenir, en particulier en ce qui concerne le détroit d'Ormuz? Est-ce que vous pensez que le conflit va se durcir, ça va devenir une sorte d'abcès? Est-ce que l'Iran, d'ailleurs, a les moyens de maintenir de cette façon-là un obstacle sur le détroit d'Ormuz? Il n'a pas la marine, elle n'a...
Non, mais la grande interrogation, c'est qui dirige l'Iran?
Oui, c'est ça.
C'est ça le problème. Mmh. C'est que je pense qu'il y a incontestablement à l'intérieur de l'Iran des gens qui ont envie de négocier.
Ah oui, ne serait-ce que le président.
Voilà, ça paraît
le président et le vice-président.
Oui. Tout ce qui a conservé un peu de raison.
Oui, oui. Tout ce qui est intelligent. Et Dieu sait s'il y a des gens.
Il y a beaucoup de gens
intelligents.
Dieu sait si les Iraniens sont intelligents.
Oui.
Mais ce n'était pas prévu, ce problème de détroit d'Hormuz. Ça paraît. Ça n'a pas du tout été évoqué.
Je pense qu'il a été minimisé. J'ai l'impression que les Américains, et alors les Israéliens, je ne sais pas, finalement ça les arrange peut-être, mais je pense qu'en tout cas, jamais les Américains n'ont pensé que l'Iran allait frapper des pays comme le Qatar qui est, oui. ou les États arabes unis. Ça, je pense que c'est un phénomène qui leur a échappé complètement, parce que c'est vrai que Autant là, ça crée un problème considérable aux Américains, à la coalition des Américains, autant pour l'avenir, c'est une erreur effroyable de la part du régime iranien s'il a envie de durer. Mmh. Hein, il est évident qu'il s'isole, contrairement à ce qu'on nous raconte, complètement, totalement. Croire que les Émirats arabes unis vont se rapprocher après de l'Iran parce qu'ils en auront peur, c'est une sottise. On n'imagine pas les destructions qui ont été imposées là, à l'Iran. Personne n'imagine ça. Quand j'entends « Ah, ça y est, ça va devenir la puissance dominante »,
c'est
à mourir de rire. Tout est détruit. Alors, on sait qu'une partie de l'aviation a été sauvée parce qu'en fait, et ça, personne ne le dit, avant le conflit, la plus grande partie de l'aviation iranienne est allée se poser sur les aéroports pakistanais.
Oui. Hein?
Et les Pakistanais, en fait, jouent dans cette affaire double jeu.
Il faut parler dans le micro.
Ah, c'est...
Voilà. C'est moi qui fais du bruit. Je fais du bruit en tapant sur...
Ce sont des micros très sensibles.
Alors, voilà. Oui, non, mais c'est très intéressant, mais en fait, ils n'ont pas la possibilité même de maintenir le blocus, puisqu'ils n'ont pas de marine.
Oui, absolument.
Donc, ils ont mis des mines, mais ça s'arrête là. C'est...
Bien sûr.
Et les mines, ça s'enlève.
Voilà. Et je pense que... Alors, l'un des grands problèmes de Trump, c'est qu'il peut annihiler le régime en 15 jours en détruisant toutes les infrastructures pétrolières et toutes les infrastructures électriques.
Oui, bon.
Mais ça veut dire qu'on condamne le peuple iranien à 20 ans de misère. Mais réellement, parce que, attention, des infrastructures pétrolières...
Mais ils n'ont plus de quoi manger, déjà. Alors.
Voilà, il faut des années pour remettre en état des infrastructures pétrolières. Hein. Pareil pour les... Alors, les infrastructures électriques, ça va peut-être plus vite, mais dans un état qui n'aura plus d'argent. Donc, je pense que c'est ce qui fait beaucoup hésiter Trump. Mais s'il le voulait... S'ils le voulaient, le grand problème des Américains, c'est qu'ils ne font pas la guerre à un pays, ils font la guerre à un régime.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Hein. Et que pour renverser ce régime, il faudrait débarquer. Et qu'ils n'ont pas du tout envie de débarquer, parce que malheureusement...
Ils ont mis les hommes pour.
Voilà, tout à fait.
Ils ont mis les hommes pour et le matériel.
Tout à fait. Mais encore mais ils ont 50 000 hommes. Hein.
Oui.
Oui,
mais les meilleurs qui soient. Hein.
Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, Bush, lui, avait réuni 300 000 hommes dans sa guerre pour la guerre du Golfe.
C'est impressionnant.
C'est une autre dimension, qui ont eu d'ailleurs en fait pas beaucoup à combattre, puisqu'on sait aujourd'hui que le régime irakien s'est effondré parce que Saddam a été trahi par les unités de la garde. Et c'est ce qui explique après tout ce qui s'est produit ensuite en Irak. On sait aujourd'hui que par l'intermédiaire du BND, les services secrets allemands qui ont conservé des liens depuis Adolf, ils ont conservé des liens très très étroits, les services secrets avec les différents services secrets arabes, et donc il semble que par cet intermédiaire les deux grandes divisions blindées du régime de Saddam, qui était dirigé par son beau-frère, ont fait défection, n'ont pas combattu, en fait. Mais on avait donné à la fois à ce beau-frère, qui a trahi pour des raisons qui peut-être sont des raisons nobles par ailleurs, et aux généraux irakiens, on leur avait donné une garantie, c'est que l'armée irakienne ne serait pas dissoute et que le Baas resterait le pilier, transformé sans sa dame, enfin tout ça, conserverait le pouvoir. Or, aucune de ces deux paroles n'a été
Comme toujours avec les Américains.
Et en plus, les Américains ont commis la sottise de dissoudre complètement l'armée irakienne. Ce qui fait que vous avez des centaines de milliers d'hommes qui n'avaient plus de moyens de survie du jour au lendemain. Hein, et avec à côté des pays, des États arabes ultra riches qui déversaient du fric.
Et les Iraniens
qui déversaient du fric et les types étaient payés pour continuer à combattre. Ça explique tout le drame. Là, je m'égare encore une fois, Je pars souvent dans des digressions.
C'est très intéressant.
Mais voilà tout ça.
Alors, comment voyez-vous dans les jours qui viennent, enfin, ce sont des hypothèses, évidemment, puisqu'on ne sait pas. Tout peut survenir, puisqu'on a affaire à un homme, Trump, qui est imprévisible par nature.
Oui, tout à fait.
Qu'on a affaire également à un État d'Israël qui est imprévisible parce que il est jusqu'au boutiste.
Mais je me trompe depuis le début. Hein. J'arrête pas de dire à ma femme, il va y aller.
Oui.
Voilà, donc je continue à penser.
J'ai écrit mon dernier article, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Pas encore, j'ai reçu hier.
Il ira jusqu'au bout.
Pour une raison d'ailleurs simple, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout. Il est perdu politiquement aux États-Unis.
Mais sans personnel, j'allais dire, au sol.
Les journalistes disent le contraire, là aussi.
Oui, mais bon.
Cher Gilles.
Ils se sont tellement trompés.
Et ils disent le contraire. Ils disent qu'il est tenu par l'échéance électorale.
Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il ait fini avant la fin juin.
Oui.
En gros.
C'est ça.
En gros. Donc ça laisse quand même quasiment.
C'est pour ça là qu'il vient de laisser encore 15 jours.
Mais il est évident qu'il peut affaiblir d'une façon. Et à ce moment-là, c'est le peuple iranien qui va trinquer, bien sûr. Hein, parce que ça veut dire que les Américains vont aller jusqu'au bout et qu'il faudra des décennies pour remettre le pays en état de marche. Hein, ça va être absolument terrible.
Ils ont quand même l'impression d'avoir été un peu trompés, le peuple iranien.
Le peuple iranien, oui, bien sûr. Mais je pense, alors là aussi, je ne sais pas ce qu'en savaient les services de renseignement. Peut-être ont-ils cru à la possibilité d'un soulèvement. C'est trop tôt.
Ils y ont cru.
Je pense qu'ils y ont cru. Mais
ils y ont cru, certainement.
Oui, moi je pense au début.
Et Israël également, et le Mossad également.
Voilà.
Ils ont joué là-dessus. Alors, il faut dire qu'ils sont très très bien informés, puisque pratiquement, on a l'impression que là-bas, la hiérarchie militaire et politique est doublée par...
Quelquefois, on se demande si les ayatollahs ne sont pas des agents du Mossad.
Oui, c'est ça.
Parce qu'ils sont tellement infiltrés, ils sont des milliers. Hein. Ils sont des milliers.
Alors, les malheureux qui se font prendre, là,
C'est la pendaison et une grue, c'est simple. Hein. Mais c'est une véritable armée, hein, le Mossad à l'intérieur de l'Iran. Hein. Ils sont renseignés sur tout. C'est pour ça que je pense, s'ils veulent y aller, ils peuvent continuer à décapiter tant qu'ils vont. Mais peut-être n'y ont-ils pas intérêt par ailleurs, parce que il faut bien négocier avec quelqu'un.
Bien sûr.
Voilà. Et s'ils ne veulent pas débarquer, ça c'est tout le drame aussi des pays occidentaux. Hein. Oui. Alors je ne suis pas cynique, je sais bien que si moi-même, il y a 50 ans, ou l'un de mes enfants, je me poserai la question. Mais aujourd'hui, c'est zéro mort, quoi. On ne peut pas imaginer ça quand vous voyez.
Le modèle, c'est une opération à la Vénézuèle.
Tout à fait. Si demain vous avez un millier de morts, ce qui peut arriver au cours d'une catastrophe sismique ou n'importe. Le tsunami en 2004, c'était 130 000 morts. Hein. Bon, mais alors là, je ne veux pas être cynique. Mais disons que dans la mesure où on ne veut plus de pertes, évidemment, ça crée des problèmes absolument considérables. Donc les Américains sont pris, à la fois, ils ne veulent pas de pertes au sein de leur armée, et en même temps, ils ne veulent pas détruire l'Iran. Donc c'est ça, c'est un double problème. Hein. Ils sont pris, là, vraiment.
Trump fait des discours dans un sens et dans l'autre.
Voilà.
Mais
ça n'est qu'affaire de conviction. Je n'imagine pas que demain il puisse se retirer avec quelques vagues promesses. Ça me semble invraisemblable parce que là, à coup sûr, il aura perdu les élections. Même si
puis il ne peut pas laisser le détroit d'Ormuz à l'Iran.
Non,
en plus, un droit de péage, ce qu'ils sont en train de faire.
Bien sûr. Et en plus, maintenant, il parle de d'avoir un droit de péage aussi sur les installations, sur les câbles. Sur les câbles sous-marins. Bon, on en est dans l'absurdité, là, bien entendu. Mais ça prouve un peu aussi que vous avez 40 voix dissonantes en Iran. Hein, et avec qui gouverner ? Avec qui, je veux dire... traiter. Avec qui négocier ? L'un des problèmes de Trump, c'est que peut-être il ne sait pas si les gens avec qui il négocie
sont représentatifs.
De quel pouvoir ? Ou ne seront pas éliminés dès le moment où on connaîtra les accords. C'est vraiment extrêmement difficile.
Alors maintenant, il nous reste quart d'heure.
Ah, bon,
un quart d'heure. Est-ce que nous pourrions nous rapprocher de Paris
et absolument, de politique. Alors là, c'est plus votre domaine, il a l'air que le mien.
Et de l'extraordinaire président dont la France...
Que le monde entier nous envie.
qui fait des courses à pied au Kenya et qui pratiquement tous les jours prend un jet pour se promener.
C'est la politique du polichinelle. Ça a quelque chose de
tragique.
Absolument atterrant. Hein. Atterrant, moi, quand j'en parle à des amis...
On a même des scènes de ménage, maintenant.
Rien. Oui.
Bien que n'ayant jamais été pro-régime, j'ai vraiment de très anciennes et très nombreuses amitiés en Chine, par exemple. Ils sont atterrés. Réellement, atterrés.
Tout le monde. Oui, parce que les gens qui aiment bien la France sont scandalisés, même par le comportement d'un Macron, qui est le premier à vouloir donner une image dégradé de la France. Partout où il passe, c'est pour dire du mal de la France et des Français.
D'ailleurs, ils comprennent.
Et des Français.
Oui. Et comment va-t-il comporter avec notre pape qui nous fait la joie
Il va lui taper sur le ventre, comme il a fait avec le pape François.
Bien sûr.
Il va le tutoyer.
Oui, et il tiendra le langage que le pape a envie d'entendre. Et dès que le pape aura le dos tourné, il dira exactement le contraire. C'est toujours comme ça. Hein. C'est assez atterrant quand on voit la politique à l'égard de l'Algérie. Quand on voit ces déclarations hallucinantes qu'il a pu faire au Caire, hein, et puis à Nairobi, c'est absolument délirant. Mais délirant, cet homme est malade profondément. Hein. J'ai toujours pensé, moi...
Pas de France, il n'y a pas de Français pour lui. Il n'y a pas de Français.
Ah non, il
n'y
a que de l'Europe, sûr.
D'abord,
déjà,
proprement, il y a l'Europe. Puis ensuite, il y a le monde, c'est-à-dire toutes les populations du monde peuvent se dire françaises. Il ne sait pas ce que c'est que l'histoire.
Oui. Il y a le mondialisme, on a le wokisme.
C'est l'élève de Sciences Po dans...
C'est psychologique, cet homme-là veut être celui qui parle dans le micro... Hein, et celui qui attire la lumière des projecteurs.
Hein,
C'est tout. Donc il est prêt à dire n'importe quoi, et le lendemain, absolument le contraire. Donc c'est bien difficile.
Mais ça va toujours dans le même sens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraires. C'est toujours négatif pour la France et pour les Français.
Dès le début.
Absolument. Et puis, alors il y a les uns disent, j'entendais beaucoup de mes confrères qui disent il a envie de se représenter en 2032. Moi, j'y crois peu. Je crois que ce qu'il vise, c'est la présidence de la Commission européenne.
Ah oui.
Voilà, je pense. Étant entendu qu'à ses yeux, il faudra la transformer profondément. Pour en faire une espèce de présidente fédérale. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, même quand nos intérêts sont directement en jeu et directement contredits, il tient pour von der Leyen contre les intérêts français. Il ne peut pas devenir président de cette Commission européenne s'il n'a pas l'aval de l'Allemagne.
Le chancelier Merz se moque de lui, mais lui, il se met à quatre pattes devant
parce que c'est l'Allemagne qui tient aujourd'hui l'Union européenne. Hein. C'est déjà une fédération quasiment allemande, en gros. Hein,
Il leur a livré déjà, il leur a livré Ariane, il leur a livré l'aéronautique française. Voilà.
Il faut dire que ça avait commencé, même, je suis désolé, là, même sous Sarkozy, sous Sarkozy, il y avait eu... Alors, ça allait moins loin, beaucoup moins loin. Parce que d'abord, Sarkozy n'a jamais eu envie de devenir président de la Commission européenne, encore que... je crois qu'il y avait eu un accord entre lui et Angela Merkel. Vous êtes la première, mais à condition que je sois toujours le second.
Oui.
Ça, c'est l'accord qui a été conclu.
Et quand vous serez plus là, ça sera moi le premier.
Et là, les Chinois étaient très conscients. La première fois que j'ai entendu cette théorie, c'était dans la bouche de confrères chinois. Mmh. Parce que bon, après la retraite, pendant une quinzaine d'années, j'ai été correspondant pour
les journaux chinois.
Un groupe de journaux chinois. Mmh. Voilà, après, j'ai abandonné parce que bon, malheureusement, contrairement à ce qu'on a pu penser, loin de se libéraliser, la Chine redevient un pays absolument totalitaire. Hein. C'est très, très, très frappant. Hein. Ça montre bien, d'ailleurs, que la croissance, contrairement à toutes les théories qui ont pu être répandues, n'a rien à voir. Le niveau de développement avec le développement et la survie d'institutions totalitaires. Je ne parle pas d'autoritaire. C'est plus grave que ça. Hein. C'est que je pense que c'était l'ambition de Deng Xiaoping et de ses successeurs, c'était de transformer progressivement la Chine en un pays autoritaire, nationaliste, et où l'idéologie, en tout cas un certain nationalisme aurait remplacé le marxisme.
Le communisme.
Voilà, ça je pense, hein, doctrinalement. Hein, mais
alors, ce qui est quand même un peu le cas aujourd'hui.
Oui, mais de façon moins vraie.
L'argent remplace... dictature
bien
du prolétariat.
Hein. Ah ben vous savez, là encore, pardon, pour les anecdotes, vous allez dire que je suis un homme à anecdotes, mais quand je travaillais pour cette chaîne de journaux chinois qui était installée à Shanghai, c'était le lieu à l'époque de un peu où. La vitrine de la libéralisation de la Chine, justement, et aussi pour des journaux de Hong Kong. Je m'entendais très bien avec le directeur de ce groupe. Chaque fois que j'allais en Chine, il m'invitait à déjeuner, et au cours d'un déjeuner, je lui avais dit, mais écoutez, j'y comprends plus rien, monsieur. C'est quoi maintenant votre doctrine? Il m'avait dit, mais je vous jure, tel quel. Monnaie. Monnaie, il m'a fait ça, comme ça, avec les doigts. Monnaie.
Ah oui. Ça a toujours été ça chez les Chinois, non?
Oui, enfin, sauf Sun Mao quand même.
Ce sont des commerçants, fondamentalement.
Fondamentalement, oui. Mais enfin, bon, justement, Mao a transformé un peu. À travers ça a été un dictateur absolument monstrueux.
Oui, monstrueux.
Monstrueux. Oui, monstrueux. Mais en même temps, tel que Qin Zhe Wang dit il y a 2000 ans, il a recréé l'unité de la Chine, qui avait été dissoute depuis un siècle, que Chiang Kai-shek n'avait pas réussi à recréer. Il a redonné aux Chinois la fierté du militaire. Il ne faut pas oublier que les Chinois ont un mépris ancestral hein, pour tout ce qui est militaire. Hein. Hein, ils disent on fait pas des clous avec du bon acier et des soldats avec des gens bien. Donc c'est vous dire, hein, c'est vraiment. Hein. Or il a rendu cette fierté. Et après bon, il faut bien reconnaître que il a ouvert la Chine à la moitié de sa population, c'est-à-dire aux femmes. Je suis désolé, c'est quand même Sun Mao. Qui a eu cette... Alors, c'était en même temps une émancipation en tant que femme et une horreur en tant qu'être humain. Oui. Donc, c'est bien difficile de dire ces choses-là, mais il faut le reconnaître parfois.
Lui-même était un type immonde, d'ailleurs,
de ce point de vue-là. Qin Zhe Wang Di a été le fondateur de la Chine, historique, il y a 2200 ans. Ça a été un monstre. Un monstre, hein. Il avait fait brûler tout ce qui pouvait être témoignage écrit. Parce qu'il ne voulait pas qu'on parle de la Chine avant lui, du passé. Hein, et donc, tous les écrits taoïstes, confucianistes, non survécus, parce qu'ils étaient cachés dans des morceaux de bambou et tout ça, qui sont ressortis après...
avec les Tibétains.
Après sa mort. Hein, oui.
Alors, Macron et la Chine.
Macron,
il est allé en Chine, lui aussi.
Oui.
Il a fait son petit tour, et à mon avis, il a été beaucoup plus maltraité que Trump.
Il a fait rire tout le monde, hein, il faut bien dire, ils ne le prennent
vous
plus.
Vous qui connaissez, enfin,
L'un des signes pour moi, c'est qu'il y a encore 7-8 ans, 10 ans, disons, hein, il y avait une trentaine de correspondants permanents chinois à Paris. Il n'y en a plus. À part Chine Nouvelle, il n'y a plus. Ils sont tous partis, parce que j'estime que c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. La Chine, s'ils veulent savoir, eh ben, ils vont à Bruxelles. Par contre, ils ont développé leur à Bruxelles, à Francfort et à Berlin. Oui. Mais quand je dis il n'y a plus, peut-être il y en a un ou deux que je ne connais pas. Mais en tout cas, la plus grande partie des correspondants de grands journaux chinois, c'est fini. Ils ne s'installent plus à Paris.
Ça, pauvre c'est France.
Très... Oui, ça c'est très très net. Et les dirigeants chinois ont bien conscience que quand ils veulent parler aux Européens, ça n'est pas à Paris qu'il faut parler, c'est à Berlin. On voit bien qu'ils ont des liens privilégiés, même avec un type comme Merz, qui est pourtant, alors lui, il est encore plus bas dans les sondages que Macron. Bon, c'est, il faut faire, hein. Hein, il faut faire, hein, puisque là, dans les derniers sondages que j'ai vus, il devait être à 12%, je crois. Hein,
il risque d'y avoir, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, des retournements en Europe assez stupéfiants, parce qu'en Angleterre, c'est quand même... Oui. Là aussi, il y a une réaction nationale,
populaire, partout.
Et à mon avis, elles ont plus de chances de réussir que les réactions nationalistes françaises, qui incontestablement sont là, puisque tout le monde redoute une majorité...
Bien sûr, un score pour le Rassemblement national.
Qu'est-ce que peut faire le Rassemblement national dans le cadre des institutions françaises, d'autant plus
et
que
des institutions
Macron,
européennes.
Oui, et surtout. D'autant plus que Macron dispose tous les pièges qu'il faut.
Absolument, il a tout bouclé.
Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Banque de France.
Bien sûr, la seule chose qui pourrait sauver la France, ce ne sont pas... Écoutez, sincèrement, pour aller voter aujourd'hui, il faut croire au miracle, hein, parce que de toute façon, on sait bien que ça n'aura pas d'effet, même si parmi les auditeurs, des gens votent très bien pour eux. Je ne critique pas qu'ils le fassent, surtout, on ne voit pas ça comme une critique. Mais bien sûr, dans le cadre des institutions à la fois françaises et européennes, il n'y a rien à faire. La France aurait besoin...
Qui peut faire quelque chose contre Bercy?
Tout à fait. Qu'est-ce qui peut
faire quelque chose contre la rue de Grenelle? Oui. Là, on s'étonne. Maintenant, on sait qu'à peu près tout le périscolaire est entre les mains de pédomanes. Bon. Il n'y a rien qui est fait du point de vue judiciaire. Et à mon avis, il y a une protection interne absolument considérable. Oui, oui. Et ce ne sont pas des associations de parents et de braves mères de famille qui changeront quoi que ce soit. On ne changera pas les programmes.
C'est la justice,
de toute façon, le programme de la République, justice. C'est de détruire la France. C'est comme ça depuis 200 ans. Oui. Elle s'y emploie activement. On décrédibilise tout ce qui constitue la France. Monarchie, son aristocratie, son Église, son peuple. Et tout y passe.
Et sur l'immigration, problème fondamental pour l'avenir, vous avez à la fois le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, un double barrage. Donc à part quelque chose, mais justement ça n'est plus possible, quelque chose qui ressemblerait au 13 mai 68, où là on a tout balancé.
Le 13 mai 58
58, pardon, oui, c'est ce que j'entendais.
Oui, vous avez entendu, vous avez dit 68. Et on a fêté, là.
Oui, absolument.
Quel drame.
Quel drame. Hein.
Quand on pense à ce qui était possible.
Absolument.
Et que, disons-le sur ce micro, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ce soit permis de le dire, et que De Gaulle a trahi.
Oui, tout à fait.
Peut penser tout ce que l'on veut de De Gaulle, il n'empêche que ça a été le commencement de la fin.
Bien sûr.
Parce que c'est là que le problème s'est posé.
Bien sûr, mais...
Il y avait quelque chose qui était en train de réussir. Alors, c'est vrai que les réponses républicaines aux problèmes posés, que ce soit dans les colonies, que ce soit en France, sont toujours de mauvaises réponses parce que les principes républicains sont en eux-mêmes idiots, contradictoires,
bien sûr, mauvais, surtout,
mauvais en eux-mêmes.
Oui, surtout.
Et donc manipulés par des gens qui ne sont forcément par eux-mêmes, étant donné qu'il s'agit de choses contradictoires, qui sont des gens pervers, puisqu'ils utilisent le pouvoir à leur profit.
Voilà.
Et on n'a que ça.
Absolument.
Et De Gaulle a été le premier.
Il voulait
le pouvoir.
Absolument. Lire l'article d'Hilaire de Crémier dans Politique Magazine.
Oui, j'en fais régulièrement.
celui-ci est très éclairant.
Cette espèce, même mes amis qui deviennent complètement... On idéalise le passé. Le 13 mai 58, je l'ai vécu, j'avais 14 ans.
Ouais.
J'étais sur les Champs-Élysées. Et moi, je me souviens très bien de l'élan prodigieux et de l'atmosphère qui régnait, y compris dans le métro parisien. Les gens étaient heureux. Il y avait un renouveau français et on sentait d'ailleurs que ce renouveau était en même temps spirituel.
Oui.
C'était un retour aux sources.
Mais vous
La France
vous en parlez,
se retrouvait.
Vous en parlez,
se retrouvait
bien sûr. C'était presque un phénomène de pesanteur, comme si toutes les pesanteurs politiques avaient disparu, pesanteurs politiques et sociales. On nageait dans une espèce de prise de conscience de la puissance de la France, de ce qu'elle pouvait être.
Et De Gaulle savait très bien de quoi il s'agissait. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a traité par en dessous, toujours par en dessous, avec toute l'ancienne équipe des Guy Mollet, des Flinlin, c'est avec eux qu'il s'est entendu pour leur dire « Je prends la mise, mais vous en faites pas, c'est pas pour faire une dictature anti-républicaine, c'est pour accomplir ce que vous êtes incapable de faire, c'est-à-dire le largage de l'Algérie. »
Et si De Gaulle, De Gaulle voulait abandonner l'Algérie, je crois, simplement parce qu'il se rendait bien compte que s'il conservait l'Algérie pendant 10 ans, ou jusqu'à la fin de ses jours, c'est un problème
qu'il fallait résoudre.
Qui aurait été le problème essentiel. Alors. Or, il ne voulait pas. De Gaulle avait besoin de laisser sa trace dans l'histoire. Et pour laisser sa trace dans l'histoire, comme à l'époque, c'était la grande époque, n'oublions pas, d'après Bandung, du tiers-monde, il fallait abandonner l'Algérie parce qu'il n'y avait pas moyen de créer des liens.
Parce qu'il fallait, il fallait parler avec Mao et il fallait parler avec
Nasser, avec Tito, avec des gens de ce genre. Bainville a dit... Bainville a dit qu'en politique étrangère, il écrivait « Rien de grand ne se fait vite ». C'est un principe essentiel. Or, De Gaulle, il estimait qu'il n'avait pas le temps et il fallait qu'il assure sa propre gloire. Vous savez, dans les bouquins qu'a écrit Perfit sur De Gaulle, il y a une phrase qui éclaire tout De Gaulle dans les... Il dit ceci à un moment... Au fond, toute ma vie, il parle de la France, toute ma vie, j'ai porté une morte dans mes bras et j'ai réussi à faire croire qu'elle vivait encore.
Ouais,
c'est terrifiant.
Quel mépris, oui.
C'est terrifiant.
Ah oui, et puis quel orgueil, enfin.
C'est terrifiant. Ça veut dire qu'il s'en a... Quand il meurt, la France meurt en même temps que lui, à ses yeux. Il est la France, il est la personnification de la France. Oui. Et si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien à ces 10 années qui ont été des années perdues.
Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, en plus, il a trompé tout le monde, et y compris même le comte de Paris,
absolument,
à qui il a fait croire que
qu'il allait peut-être
une place pour lui.
Qu'il souhaitait que sa politique avait toujours été une politique capétienne. Bien sûr.
Et des belles lettres ne remplacent pas les actes.
Hélas.
Et à la fin, il lui a proposé la présidence de la Croix-Rouge. Oui. À ce moment-là, le comte de Paris s'est rendu compte qu'il avait été joué.
Le drame de la France, ce sont ses élites, enfin ce qu'on appelle ses élites. Le peuple est encore sain, en tout cas politiquement. S'il est perverti, il est perverti par ses élites de toute façon, sur tous les plans.
Est-ce que vous avez un petit peu d'optimisme pour cette fin d'émission ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le renouveau spirituel en France.
Ah voilà.
Ça, je crois
que
c'est
sérieux. Et on le sent dans Politique Magazine.
Et pas forcément dans le cadre des institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, même ecclésiastiques.
Non, mais on oublie un peu le matérialisme.
Oui, ce serait bien que le Saint-Esprit s'intéresse, puisque la Pentecôte arrive, s'intéresse à nous. Et souffla directement dans l'esprit des jeunes Français des bonnes résolutions et surtout une clarification sur leur passé, qu'ils comprennent la leçon des 2000 ans d'histoire que nous avons et qui est une leçon formidable.
C'est le bon côté, je mets ça entre guillemets, de l'immigration, c'est que ça oblige tous les gens qui se sentent français, je dis qu'ils se sentent, quel que soit par ailleurs, mais ça les oblige à redécouvrir leurs racines. J'entends leurs racines historiques.
Et lorsque... Le plus intéressant, c'est que quand on voit des gens d'origine étrangère qui adhèrent tellement à la France que ce sont les premiers à être d'accord avec le fin fond français pour critiquer l'absurdité
de génération,
régime.
Tout à fait. La génération.
Tout à fait.
Ça, ce serait...
Tout à fait, parce qu'eux n'ont pas l'argument ethnique, justement. Donc, ils découvrent l'argument plus profond, qui est l'argument historique, culturel, civilisationnel.
Puis cette espèce de fausse religion républicaine qu'on a inculquée dans l'esprit de tous les Français. C'est pour ça que moi, je souhaite bien du bonheur à celui qui gagnera les élections présidentielles. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça ? Il ne peut rien faire, absolument rien. Darmanin en rêve, ils en rêvent tous. Ouais. Mais j'ai écouté ce matin Il revient d'Algérie. C'est
hallucinant.
Il est persuadé qu'il a fait un bon coup. Mais
et il dit, ils ont foutu un journaliste français sans raison en prison, mais il est bien traité.
Il est bien traité, c'est ça. Il est bien traité. Et le président Tebboune pense à lui et peut-être va le libérer.
Il peut prendre sa
c'est
place.
Prodigieux. Et le français est au garde à vous. Il trouve ça très bien.
C'est prodigieux. Et c'est d'autant plus triste de la part de Darmanin. Il faut quand même rappeler, justement, qu'il est petit-fils d'un harki.
Bien sûr, c'est
tragique. Et il a commencé ça.
Faut-il rappeler qu'il a écrit.
Absolument.
C'est moi qui le dis, puisque à l'époque, j'étais le directeur de Politique Magazine.
Tout à fait.
Il a écrit un article dans Politique Magazine, même deux.
Oui.
Merci.
Une petite minute pour conclure.
Allez.
Gilles Varanche.
Ah, alors là, vous me posez. Je peux vous raconter juste.
Je vais
vous raconter une histoire qui va vous faire. Ça n'a rien à voir.
Une minute.
Vous me permettez.
Minute,
ça va beaucoup vous amuser. On parlait tout à l'heure de mai 68. Je faisais un lapsus. Après mai 68, il y a eu un grand colloque à Paris. Et mon journal m'a envoyé sur place pour le traiter. Et donc, il y avait là Raymond Aron, Sartre, etc., qui n'ont pas voulu se voir. D'ailleurs, ils sont venus à Tournol. Et brusquement, qui n'était pas prévu, Salvador Dali.
Ah.
Et Salvador Dali arrive et alors inutile de vous dire que l'auditoire c'était rien que des étudiants et il arrive et se précipite vers eux. Je n'étais pas prévu mais j'ai absolument tenu à venir vous saluer parce que vous êtes des enfants de la haute bourgeoisie et vous avez trahi votre classe. Enthousiasme inouï. Oui, bravo. Il faut toujours trahir sa classe. Oui. Moi aussi, j'ai trahi ma classe. J'étais un enfant de la bourgeoisie. Aujourd'hui, je suis devenu un aristocrate. Silence de mort. Je me suis dit, on va le lyncher. Pas du tout.
Très belle finale.
Bon, nous retrouvons donc en juin.
Venez d'entendre le libre journal de Jacques Trémollet de Villers, dirigé par Hilaire de Crémier, assisté de Marie-Vonne. Émission préenregistrée le 19 mai 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 21 mai, de 19h30 à 21h, et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.